à voix nue. Cette semaine, Jérôme Clément rencontre Gérard Mordilla. Ce soir, D'Arto le Momo à Corpus Christi.
Bonjour Gérard Mordilla.
Bonjour.
Alors hier, nous vous avons découvert un petit peu, on a vu votre enfance, votre enracinement dans la classe ouvrière. Je suis né dans la classe ouvrière, disiez-vous. Vos parents, vos familles, vos instituteurs et Paris. Ce 20e arrondissement que vous aimez tant et dont vous avez gardé une forte nostalgie. Mais alors, dans toute cette période, il y a une chose dont on n'a pas beaucoup parlé, mais qui apparaît un peu à la fin de ce qu'on a décrit hier, c'est la cinémathèque.
Ah oui.
Parce que vous alliez au cinéma, mais vous avez commencé à aller à la cinémathèque où vous avez découvert le cinéma. Au Palais de Chaillot, puisqu'à l'époque, elle était dans un espace du Palais de Chaillot. Mais pourquoi vous êtes allé à la cinémathèque? Parce que vous étiez enfant du 20e, enfant de l'école publique, vous écoutiez lire l'histoire de la Révolution française de Michelet. Ça vous a pris comme ça d'aller à la cinémathèque?
Non, mais ça m'a pris parce que, comme toujours, j'avais, et j'ai toujours, un ami qui s'appelle Jacques Pena, qui était, lui, un amateur de cinéma comme j'en connais peu. Il voulait tout voir. Et donc, c'est lui qui m'a emmené à la
cinémathèque. Un ami d'école,
lycée. Oui, un ami d'école, oui, oui. Donc, avec Jacques, on est tout allé voir. Et la cinémathèque avait cet avantage extraordinaire de coûter très peu cher, puisque ça coûtait 2 francs et 1 centime. Et qu'on pouvait voir là 5 films entre 15h et 23h, 24h.
Vous alliez à l'école, quand même?
Mais on séchait.
Ah oui, ah, ah bon, oui. D'accord, carrément.
Non, parce que j'ai assez vite...
Vous n'étiez pas bon élève?
Si, j'étais bon élève, mais c'est pour ça que j'ai quitté l'école, parce que nous pensions que ceux qui continuaient leurs études, c'était ceux qui n'avaient vraiment rien dans la tête. Moi, mon ambition, c'était pas ça. Mon ambition, c'était de gagner ma vie et de ramener ma paye. C'était pas de poursuivre des études par une autre voie que mon frère, mais moi, je pensais aussi inventer ma vie autrement qu'en restant assis et à prendre des leçons. Et donc, très vite...
Un côté les 400 coups, quoi.
Oui, bah, c'est-à-dire que au bout d'un moment, ça ne m'a plus paru nécessaire. Je m'ennuyais et je préférais aller tous les jours à la cinémathèque voir des films. Et là, j'apprenais quelque chose.
Vous voyez quoi, 4 ou 5 par jour, mais quoi?
Tout. J'ai vu tout. Von Stroheim, j'ai vu. Mais j'ai des souvenirs merveilleux parce que, bien sûr, quand on est comme ça, au bout d'un certain temps, à la cinémathèque, on connaît tout le monde. Et donc, j'ai très bien connu Henri Langlois, Marie Merson. Je les ai fréquentés. Et donc, il fallait aller tout voir, tout ce qui passait. On s'intéressait pas à tel ou tel programme. On savait que ça commençait à 15h, que ça finissait à minuit. Et puis, on allait tout voir. Preppinger, Hawks, Ford, Les Muets, tout ce qu'on pouvait voir.
Oui. Enfin, vous avez quand même aussi de l'audace, parce que vous allez voir Rossellini.
Ah, j'ai rencontré Rossellini à la Cinémathèque. Ben ça, oui. Ça a été une chance formidable parce que j'étais à ce moment-là ouvrier imprimeur et je voulais écrire sur les guerres paysannes en Allemagne au XVIe siècle. Parce que j'avais lu le livre d'Engels sur la question et surtout le livre de Ernst Bloch. Qui est
très, très, très intellectuel. Hein,
le philosophe... Oui, intellectuel, mais c'est ce qui m'avait intéressé. Mais je ne savais pas, au fond, que ça allait commander beaucoup de choses.
Parce que lire le livre d'Engels sur les guerres paysannes au XVIe siècle, c'est pas évident quand on a 20 ans ou 18 ans.
Ah si, ça se lit très bien, je vous assure.
Bon,
ah, ça se lit très très bien. D'ailleurs, il y avait souvent un petit extrait qui était vendu à part, qui était le rôle de la violence dans l'histoire, qui est un texte magistral de Engels. Et puis, le livre de Ernst Bloch racontait l'opposition entre Thomas Münzer, qui prendra le parti des paysans, contre Luther, qui, lui, soutiendra le parti des princes. Mais moi, ce qui m'avait intéressé, c'est que, à partir du moment où la Bible est traduite en allemand par Luther, certains...
Déjà la Bible, on va y revenir.
Voilà. Certains prêcheurs se mettent à prêcher en allemand. Le premier, c'était Karlstadt, puis ensuite Münzer, puis Luther est obligé de s'y mettre. Il ne voulait pas Luther, il voulait continuer en latin. Et ça a été un changement phénoménal et fondamental dans l'histoire, parce que soudain, le peuple comprenait ce qu'on lui disait.
Bien sûr.
Et c'est devenu le véhicule du discours politique. Au moment de la guerre des paysans, Luther prêche sur tel passage de la Bible, il fait une exégèse publique, Munzer fait l'exégèse d'un autre passage et on comprend que l'un et l'autre ont des positions politiques absolument antagonistes. Et moi, c'est ça qui m'intéressait. Et je racontais ça à Slanska, qui était la caissière de la Cinémathèque, qui m'a dit, elle avait un accent absolument inimitable, je n'ai jamais su vraiment d'où elle venait, « Bah, il faut raconter ça à Roberto !» Et Roberto, c'était Roberto Rossellini, qui venait présenter son film sur Pascal. Et donc, arrive le Roberto le jour dit, Slanska me présente à lui, et on passe la soirée, la projection, 1h30, il n'allait pas revoir son film, à discuter de ça, et j'ai commencé à travailler pour lui sur cette histoire des guerres paysannes en Allemagne au XVIe siècle. C'était, voilà.
Qu'est-ce que c'est devenu ce film, ce projet? Il a abouti? Il a pas abouti?
Non, ça n'a pas abouti. Dans une lettre, François Truffaut disait que lui avait été pendant 3 ans l'assistant de Rossellini sans jamais faire un film avec lui. Comme moi, j'avais été pendant 3 ans le scénariste de Rossellini sans jamais faire un film avec lui. Parce que Rossellini avait une immense réputation artistique, intellectuelle.
Bah oui, évidemment.
Mais sur le plan commercial, moi j'ai découvert ça, j'ignorais tout. Je pensais que quand Rossellini voulait faire un film, il faisait un film. Simplement, il ne valait pas un sou nulle part. Il ne trouvait de l'argent qu'en France, et notamment grâce à Daniel Toscan-Duplantier. Mais nulle part.
Oui. Alors, d'un seul coup, grâce à cette rencontre, ce projet aussi, vous vous dites, je vais rentrer, je vais faire du cinéma.
Mon travail...
C'est là que ça s'est déclenché ?
Oui, c'est là que ça s'est déclenché. J'avais fait ça avec un ami qui s'appelle Henri Fishman. On était tous les deux, on s'était connus au service militaire. Henri était, un vrai, vrai cinéphile. Et sans doute a-t-il parlé de ce que nous faisions. Bref, j'ai été contacté par Gérard Guérin, un cinéaste qui venait d'avoir l'avance sur recette pour un film qui s'appelait à ce moment-là « Le sourire », dont il voulait réécrire le scénario et faire autre chose.
Au Pays ?
Voilà, c'est devenu l'Opaïs. C'est devenu l'Opaïs. J'ai rencontré Gérard, nous avons beaucoup sympathisé, et on s'est mis à travailler ensemble. Et là, moi, j'ai quitté l'imprimerie pour travailler en cinéma. Mais c'était facile pour moi, d'une certaine manière, puisque je n'avais ni femme ni enfant, je n'avais que moi à m'occuper. Et donc, j'ai quitté l'imprimerie où je gagnais très bien ma vie pour aller avec Gérard Guérin, où je gagnais beaucoup moins bien ma vie, mais où je faisais quelque chose que je trouvais passionnant aussi.
Là, on est précisément dans cette année 73 dont on parlait hier, c'est le coup d'État contre le coup d'État de Pinochet contre Allende. Là, vous rencontrez Gérard Guérin après avoir rencontré Rossellini et vous faites un film avec Gérard Guérin.
Voilà, nous avons
ce film-là, il existe.
Ah oui, il existe.
Et il va à Cannes.
Voilà. Directement, ça a été une année magique à Cannes parce que il y avait l'Opaïs qui était évidemment très important pour nous, il y avait la nuit américaine de Truffaut. Il y avait la grande bouffe, il y avait la maman et la putain. Enfin, ça a été une...
Il y en est inouïe, quoi.
Inouïe. Il y avait le film de Lalou, le documentaire, dont j'oublie le nom. Mais bref, ça a été une année absolument formidable. Et je me souviens toujours, parce que L'Opaïs, c'est un film qui s'est fait avec des acteurs non professionnels, que j'ai recruté beaucoup dans le 20e arrondissement. D'ailleurs, je disais toujours en plaisantant, c'est le premier film occitan entièrement tourné dans le 20e arrondissement. Et on avait trouvé là notamment une petite jeune fille dans un foyer de jeunes. Et on se revoit sur le tapis rouge qui, à ce moment-là, allait à l'ancien palais du Martinez. On marchait derrière celui qui jouait le rôle principal et puis cette petite jeune fille qui avait 16 ans. Et on se disait, c'est extraordinaire. On l'a trouvée dans un foyer. On a dit, tiens, celle-là, ça a été celle-là. Et elle se retrouve à Cannes, à marcher sur le tapis rouge avec les photographes partout, ce qui est le rêve de toutes les actrices. Et du jour au lendemain, elle avait vécu ça. C'était magnifique.
Oui. Mais alors, en 73, vous êtes tout jeune. Vous êtes issu donc du 222 rue des Pyrénées. Vous êtes quand même un enfant, l'enfant du 20e. Là, vous nous l'avez bien raconté. Puis vous vous retrouvez à Cannes à 23 ans.
Oui, et j'ai entendu là une chose que je n'ai jamais oubliée de ma vie. La première fois que je vois une conférence de presse, et c'était le cinéaste et metteur en scène italien Carmelo Bene, habillé en smoking rose, avec 2 filles à moitié nues, et la conférence de presse, à ce moment-là, se faisait devant toute la presse, c'était pas des interviews individuelles comme maintenant. Et Carmelo Bene reste de dos à la salle, fait semblant de parler avec les filles, tous les journalistes sont là après à poser des questions, et soudain il se retourne et il dit « Mais la critique, c'est de la délation !» Et il s'en va.
D'accord.
J'ai gardé cette phrase en tête toute ma vie de cinéaste.
Rideau, d'accord. D'accord. Des rapports avec la critique qui ont été marqués par cet incident.
Absolument.
Alors, quelques années après, là, vous vous lancez dans un film, La voix de son maître, en 1978. Là aussi, vous tapez haut tout de suite, parce que c'est Michel Foucault qui a joué un rôle important, qui a confirmé votre vocation, Gérard Mandilla, à faire du cinéma.
Nicolas Philibert et moi, nous étions les assistants de René Alliot pour Moi, Pierre Rivière.
Nicolas Philibert qui a fait un très beau film sur Radio France.
Ah oui. Donc, nous étions tous les deux les assistants de René. Et comme le texte avait été découvert par Jean-Pierre Péter et par Michel Foucault, ils sont venus, évidemment, pendant la préparation, pendant le tournage. Et donc, j'ai fait là la connaissance de Michel Foucault, avec qui j'adorais discuter. Je n'avais pas de réserve vis-à-vis de lui, je sentais bien. J'ai toujours pensé que Nicolas était toujours un peu plus gêné, parce que Nicolas lui avait fait des études et tout. Je crois qu'il voyait un peu Michel Foucault quand même comme le professeur Foucault. Moi, je le voyais comme un type extraordinairement intelligent, avec qui c'était un plaisir de discuter. Et quand le film s'est terminé, je devais faire pour l'atelier de création de France Culture, avec Truta, une émission sur le discours patronal. Mais comme Nicolas et moi, nous nous pensions tous les deux cinéastes aussi, j'ai proposé à Nicolas que cette émission radiophonique devienne finalement un film. Et le film, il était très directement inspiré du discours inaugural de Foucault au Collège de France, l'ordre du discours. C'est-à-dire que je résume et je simplifie comment le discours est par excellence le lieu où se mesurent les enjeux du pouvoir. Et donc nous avons fait le film avec une quinzaine des chefs d'entreprise françaises qui étaient les ceux qui pensaient le monde, qui faisaient la théorie du monde. Et Michel Foucault, dans cette histoire, nous a servi finalement de sparring partner. Nous avons discuté avec lui, et c'est avec lui petit à petit que nous avons conçu le dispositif qui donnerait lieu à ce film.
C'est assez chic quand même de commencer un film avec Michel Foucault comme sparring partner.
Ça s'est trouvé comme ça, et c'est vrai que je n'ai jamais été impressionné par les titres de qui que ce soit, sauf par l'intelligence. Et c'est vrai qu'avec Foucault, c'était d'une simplicité extraordinaire. Et puis surtout, il y a une chose qui n'est pas apparente, évidemment, aujourd'hui, mais pour ceux qui l'ont connu, Michel Foucault était un rieur aussi. Il avait un rire extraordinaire. Et je me souviens, quand on discutait, alors on disait telle ou telle bêtise, ou on se trompait sur tel truc, il éclatait de rire. C'était des rapports extrêmement chaleureux, vivants, et c'est pas, je ne l'ai jamais vu dans la position du maître qui s'adresse à ses élèves, voire à ses disciples. Jamais, jamais, jamais. On était de plein pied, vraiment.
Bah, ça fait un début quand même assez tonitruant, parce qu'il y a eu un film, et là, d'un seul coup, vous entrez dans l'univers de la fabrication des films et du cinéma.
Oui, enfin, j'y étais rentré déjà avec Lopaïs, puis j'avais été ensuite assistant sur la messe dorée de Béni Montrésor. J'avais travaillé avec Michel Mardor, qui était un critique cinématographique au Nouvel Obs, mais qui avait fait un film qui s'appelle Le mariage à la mode. Je commençais à savoir exactement ce qu'était le cinéma. J'avais eu la chance aussi de réaliser très vite des courts-métrages, un tout de suite après Lopaïs, puis un après, d'après un texte de Geneviève Serrault. Bref, j'étais prêt. Et donc, le cinéma, ça m'est venu naturellement. Mais je pense que le cinéma est une forme d'écriture. Et en réalité, je ne fais aucun distinguo entre ce que j'écris et ce que je filme. Pour moi, c'est de l'écriture, d'une façon.
Alors, Gérard Mandilla, on en parlera, je pense, demain et après-demain. Là, je voudrais qu'on reste sur le cinéma et sur la partie de votre travail de documentariste. Et tout de suite aller à deux œuvres qui ont vraiment énormément compté, c'est Artaud et Corpus Christi. Alors ça, c'est des deux grandes aventures, la deuxième surtout, parce qu'elle a eu une suite, on va en parler. Artaud le Momo, et En souvenir d'un Thomas Artaud, à la fois une fiction et un film avec Jérôme Prieur. Artaud a toujours beaucoup compté pour vous.
Oui, j'étais un lecteur d'Antonin Artaud et j'étais aussi un lecteur, et c'est ça qui est à la base de tout, d'un autre poète qui s'appelait Jacques Prevel, qui avait laissé un journal extraordinaire et des poèmes tout aussi extraordinaires. Et mon idée était de faire un film de fiction à partir du journal de Jacques Prevel qui s'appelle En compagnie d'Antonin Artaud. Et en préparant ce film, bien entendu, puisqu'il s'agissait d'une œuvre, on s'inquiète de qui détient les droits. Et nous découvrons que Rolande Prevel, qui avait été la femme de Jacques Prevel, était toujours vivante. En lisant le journal de Jacques Prevel, on pensait que tous les protagonistes étaient morts. Et Jérôme Prieur et moi, nous rencontrons cette dame, et en sortant de là, nous sommes stupéfaits de nous dire que, finalement, nous connaissions beaucoup d'amis d'Antonin Artaud. Jérôme connaissait Paul Thévenin, moi je connaissais Henri Pichette, on connaissait Henri Thomas, etc. Et donc, nous nous sommes lancés dans l'idée de faire, parallèlement au film de fiction, la même histoire à travers le film documentaire, à travers les témoins authentiques de cette histoire qui, à ce moment-là, étaient encore tous vivants. Et ça a été une chance qu'Arte s'y associe très rapidement, parce que nous avons pu tourner presque aussitôt que nous avions décidé de le faire. Dans les 3 mois, on a pu tourner. Et heureusement, 1 an plus tard, 6 mois après la fin du tournage, Paul Thévenin, Henri Thomas, Marthe Robert étaient décédés. C'est-à-dire que les témoins fondamentaux n'étaient plus là. Et ça, ça a été extraordinaire de rencontrer ces gens, parce que ça nous a fait comprendre que ils avaient, au moment où on a tourné, plus de 70 ans, etc. Mais au moment où Artaud revient de Rodez, c'était des jeunes gens et des jeunes filles absolument inconnus. Ils étaient simplement enthousiasmés par Artaud. Et ce qui était merveilleux, c'était de pouvoir reconstituer le cercle du poète disparu. Nous n'avons jamais voulu être des censeurs de la mémoire. Chacun portait Artaud en soi et tous en avaient été absolument brûlés. Il y avait un avant et un après et le réinventaient. Alors, bien sûr, ils se trompaient sur les fêtes, ils se trompaient sur les dates, ils se trompaient sur la chronologie. Mais qu'importe, ça n'avait pas de raison d'être corrigé. C'était eux. Et de tous ces témoignages sortait un Artaud bien particulier, qui était le Artaud né de ses amitiés, de ses amours, de ce qu'il avait provoqué chez les uns et les autres. Et finalement, ce modèle-là n'est pas très différent du modèle évangélique. Mmh. Qu'est-ce que sont les évangiles ? C'est une collection de témoignages mis les uns avec les autres, sans chercher à contraindre la chronologie ni l'histoire d'une manière ou d'une autre, simplement de faire exister la mémoire, et c'est ça qui était important.
Et puis il y a eu la fiction, avec Samy Frey dans le rôle d'Antonin Artaud, qui a aussi donné une incarnation formidable après.
Le travail avec Samy Frey, qui jouait le rôle d'Antonin Artaud, est un de mes très grands souvenirs, parce que nous avons travaillé
C'est la même époque, hein.
Absolument, de façon parallèle. Mmh. Et nous étions devant un problème. Enfin, un problème. Question à se poser. Le scénario que j'avais écrit avec Jérôme Prieur reprenait évidemment les dialogues qui étaient dans le journal de Jacques Prevel. Or, Artaud avait un vocabulaire, une syntaxe, une scansion tout à fait extraordinaire. Le problème de base était celui-là. Qu'est-ce qu'on faisait de ces textes pour éviter de faire une sorte de collier de perles, de citations toutes plus extraordinaires les unes que les autres? Comment ça se parle? Est-ce que je remettais ça dans un français banal, si j'ose dire, ou est-ce qu'on affrontait ça? Bien entendu, tout de suite, avec Samy Frey, on a décidé d'affronter ça. Et ça a été un travail de 8 mois pour que Samy fasse passer ce texte extraordinaire dans ses moelles et en fasse une chose si naturelle. Alors, c'était un peu comme une psychanalyse, d'abord une fois par semaine, puis 2 fois par semaine, puis 3 fois par semaine, puis 8 mois plus tard, je lui ai dit, Samy, nous devons tourner. Et nous avons tourné. Et c'était un grand, grand, grand moment parce que, et lui, et Marc Barbet, mais aussi les autres dans le film, nous étions quand même très largement préparés à faire ça. Mmh. Et l'interprétation de Samy est absolument exceptionnelle. Ce qui est exceptionnel, mais c'est que, en réalité, il ne ressemble pas du tout à Antonin Artaud. Antonin Artaud faisait 1m80, il avait les yeux bleus, il n'avait rien à voir avec Samy Frey. Sauf que Samy Frey, d'une certaine manière, l'avait mangé. Il l'avait fait passer dans son corps et c'était devenu Artaud. C'était une performance d'acteur éblouissante, éblouissante.
Alors, je voudrais qu'on parle maintenant d'un autre sujet annoncé tout à l'heure. Si je vous dis mercredi 19 mars 1997 à 20h30, qu'est-ce que ça vous évoque ?
Je pense que ça m'évoque la première diffusion de Corpus Christi.
Eh ben voilà, vous avez gagné. La présentation de Corpus Christi, deux épisodes présentés au cinéma des cinéastes le 19 mars 97. Bon, ça c'est une aventure extraordinaire. Écoutez, 10 épisodes.
On va pas faire semblant. Imaginez aujourd'hui un jeune homme qui vient voir un président de chaîne de télévision et qui dit « Voilà, j'ai un projet, je vais tourner 12 épisodes d'une heure sur 6 versets de l'Évangile selon Jean ». À mon avis, il y a quand même fort peu de chance pour qu'il aille même jusqu'au bout de sa phrase. Or, la chance, c'est que ce projet infaisable, impensable, eh bien, a pu être mené à bien grâce à vous, grâce à Arte, grâce à Victor Recari, le directeur des programmes, et à Thierry Garrel qui s'occupait des documentaires. C'est-à-dire, c'était un pari insensé d'une certaine manière.
Je me souviens très bien. C'est parce que c'était fou que c'était intéressant, mais c'était évidemment improbable, de toute façon, même de le faire, de le réaliser, et surtout de le montrer. Enfin bon.
Vous savez, enfin. Ouais. Je vais pas à vous convaincre, mais quand on s'adresse intelligemment au public, il répond intelligemment. Oui. Or, l'approche que nous avions, qui était une approche historico-critique, en dehors de toute perspective religieuse ou confessionnelle, c'était interroger le texte, faire de la critique textuelle et de la critique historique.
Enfin, il faut rappeler l'entreprise. Elle part effectivement de quelques lignes des évangiles et d'en faire 12 heures de télévision, quasiment, enfin 10 heures.
12 heures.
12 heures. Avec des témoins qui parlent devant un rideau noir. C'est-à-dire, c'est uniquement de la parole. C'est de la mise en scène de la parole. Sur des sujets aussi compliqués et aussi pointus, quand même.
Oui, mais.
C'est ça qui était formidable. Vous êtes lancé là-dedans avec un courage aussi incroyable, quoi.
Mais avec quelque chose qui, finalement, me rassure, c'est que c'était tout à fait exceptionnel. Il y a une chose qui est très rare, finalement, à la télévision, c'est le spectacle de l'intelligence. Mmh. Eh bien là, c'est ce que nous montrions. Absolument. Parce que les chercheurs qui étaient les spécialistes du Nouveau Testament, les exégètes, etc., étaient tous des hommes d'une très grande érudition, polyglottes, etc., et qui étaient aussi, en tant que personne, d'incroyables acteurs. Je veux dire, Charles Perrault qui racontait le procès de Jésus, il y était. C'était extraordinaire de faire ça. Et donc, je crois que ce spectacle-là, ce spectacle de l'intelligence, qui s'exerçait sur un texte qui est la culture commune, finalement, de nous, puisque nous vivons, que nous soyons croyants ou pas, nous vivons dans une culture chrétienne. Et donc, c'était intéressant d'interroger le texte, et ça fonctionnait réellement comme une sorte d'enquête policière où il fallait découvrir dans cette chose qui paraissait si lisse et si évidente et qui était de l'ordre du catéchisme, et là, ça n'en était plus. On se posait la question de savoir, par exemple, on a consacré un épisode, là aussi ça paraît extravagant, mais un épisode à un pronom, puisque dans l'Évangile selon Jean, il est dit un moment à propos de Pilate, il le leur livra. Et ce leur, ce pronom, dans le contexte de l'Évangile de Jean, désigne les Juifs. Or, historiquement, ce ne sont pas les Juifs qui ont ni condamné, ni exécuté Jésus. Ce sont les Romains. Donc l'enjeu de ce pronom, il était fondamental. Eh bien, on a fait une heure d'émission sur un pronom. Et les gens ont été absolument passionnés d'écouter ça et de voir ça.
Moi, je me souviens que quand on a reçu, après avoir été sur le tournage, la livraison de ces épisodes, on s'est demandé qu'est-ce qu'on va en faire, comment on va programmer ça. On a pris le pari de le diffuser la semaine de Pâques, tous les soirs, en prime time. De prendre le risque d'une exposition maximum. Et effectivement, ça a marché. C'est-à-dire que le public a suivi. Ça a été un événement,
et ça a été un événement qui s'est reproduit. Puisque quand nous avons fait l'origine du christianisme ensuite, qui était sur le même modèle, sur le même schéma, bien sûr, il y en a eu pour dire « Ah là là, mais faut ne recommencez pas, ne faites pas ça et tout ». Aujourd'hui, tout le monde se souvient de Corpus Christi, mais en termes d'audience, ce qui a battu tous les records, c'est l'origine du christianisme.
C'est-à-dire que le sujet est évidemment essentiel, mais le traitement était très très exigeant, quoi. Aussi.
Ah, c'est sûr. Il n'y avait pas de pamiers, il n'y avait pas de chameaux, il n'y avait pas de désert, il n'y avait que des textes et des chercheurs.
Parole.
Encore une fois, Foucault, l'ordre du discours, il fallait mettre en scène cette chose-là.
Un grand succès, un peu paradoxal pour quelqu'un qui avait écrit, je vous cite, « La religion est une erreur criminelle et la foi une insulte à l'intelligence ». Enfin, c'est dans ce que savait Jenny, dans un de vos romans. C'est pas forcément vous qui le dites, mais enfin, c'est un peu ce que vous pensez. Et ce paradoxe-là, malgré tout, vous l'avez très bien assumé.
Ce qui nous a intéressé, parce que je pense que Jérôme Prieur dirait la même chose que moi, nous, ce qui nous a intéressé dans ce travail, c'est qu'il s'agissait de textes, qu'il s'agissait de littérature. Or, nous nous pensions l'un et l'autre, et comme des écrivains et comme des cinéastes, que la littérature interrogeait en premier chef. Et donc, il n'y avait pas de point de vue religieux. Et d'ailleurs, c'est une fois que les séries sont passées qu'on a entendu des journalistes nous demander si nous étions croyants ou pas, etc. Aucun des chercheurs jamais ne nous a posé cette question. Et nous-mêmes, nous leur avons jamais posé la question. Ça peut paraître ironique, mais nous savions en secret où nous supposions que certains d'entre eux, parfois dans des institutions religieuses, parfois pères dominicains par exemple, n'étaient pas plus croyants que nous. Ils croyaient en quoi ? Ils croyaient à la vérité du texte, à l'intelligence du texte, à la capacité de lecture. Et moi je pense que justement ce travail que nous avons fait était aussi un formidable apprentissage de la lecture. Et apprendre la lecture, c'est apprendre à voir le monde dans lequel nous sommes, tout simplement. La transposition était immédiate et évidente.
Paris gagné. Merci Gérard Mandilla pour cette belle conviction et présentation. Demain, nous nous retrouvons pour parler aussi cinéma, mais peut-être d'un autre volet de votre action. À demain.
À demain.
Réalisation Angélique Thibault, prise de son Thomas Robin, coordination Sandrine Trainer, attachée de production Daphné Abgral. À Voix Nue se réécoute et ce podcast sur franceculture.fr.